Le huitième soleil, par Richard Keller, chapitre 42. En ce mardi, l'église de la Madeleine fit le plein. Le monde du showbiz s'était déplacé pour rendre un ultime hommage à Isabelle Rivet. Le corps de la jeune femme avait effectué son dernier voyage par la route, les autorités italiennes ayant enfin donné le feu vert après quelques journées pénibles pour la famille. La police transalpine avait opposé les besoins de l'enquête et refusé par trois fois le rapatriement de la dépouille de la geisha du campanile. La quatrième demande s'était révélée la bonne. Un obscur gratte-papier avait apposé un tampon sur un document et Isabelle avait pu voyager tout à loisir. Le milieu de la télévision et celui des artistes dévoilèrent toute leur perversité et leur cruauté dans ces circonstances. Il fallait se montrer et assurer son avenir en passant un petit moment en compagnie de celui ou celle que l'on haïssait le plus. Des amitiés sincères et l'impérieuse nécessité de se faire voir cohabitaient en silence. Parfois, une pique insidieuse lancée à voix basse pimentait le cérémonial. Certains adoptaient la panoplie funèbre avec lunettes de circonstance. On se serait cru en plein tournage d'un film à gros budget. Les pointures arpentaient le parvis. La dernière demeure d'Isabelle était immaculée. Un cercueil simple, dont la couleur se révélait conforme à Colombine. D'ailleurs, la plupart des personnes présentes à la cérémonie s'étaient habillées dans le même ton. La blancheur dominait ces lieux. Des consignes avaient circulé dans les soirées mondaines. Il fallait se vêtir de blanc afin d'honorer la geisha du campanile dans la pureté. Cela faisait sourire certains qui connaissait l'histoire de la découverte des boules. Le tout Paris se gaussait des perversions de la défunte et les commérages allaient bon train. Beaucoup se demandaient si ces accessoires tant décriés reposaient dans la boîte blanche auprès de leur propriétaire. Le quatuor rapproché se reconstitua pendant quelques minutes seulement. Malgré l'épuisement dû à la maladie, Laurent Bischoff avait quitté l'Italie dans une ambulance avec son ami Jeff Lorraine, et souffrait au deuxième rang. Il jouait sa partition finale. Louis Michalet venait de se réveiller et bâillait à ses côtés. Visiblement, sa nuit trop courte se poursuivait dans l'église, et il luttait désespérément pour ne pas s'endormir devant toute l'assistance. Le manque de sommeil et l'abus de produits stimulants provoquaient des spasmes qu'il ne maîtrisait plus depuis longtemps. Brigitte Monal avait opté pour la sobriété, et elle s'était drapée dans une robe blanche aussi moulante qu'à l'accoutumée. Des lunettes noires cachaient son visage et des larmes coulaient le long de ses joues, laissant apparaître quelques taches sombres sur son corsage. Olivier Sadorlou relisait l'éloge funèbre qu'il devait prononcer, seul volontaire de la bande des quatre. À gauche du cercueil, la famille d'Isabelle se recueillait au premier rang. Le 16e arrondissement s'était réuni ici. Des parents, oubliés depuis longtemps, avaient pointé le bout de leur nez et pris place aux côtés de papa et maman. C'est fou le nombre de gens qui vous regrettent et qui s'intéressent à vous lors de votre grand voyage. On pouvait trouver pêle-mêle tout ce que la haute bourgeoisie pouvait engendrer. Les avocats côtoyaient les professeurs en médecine. Les universitaires côtoyaient les artistes et les politiques. Bref, l'élite de la nation était concentrée sur quelques bancs de l'église. Le vieil édifice continuait à se remplir. Au cinquième rang, deux hommes, en costume sombre, se concertaient à voix basse. Il s'agissait du lieutenant Gilles et de l'adjudant-chef Sagol, qui avaient souhaité assister aux obsèques. Ce dernier estimait ce moment très instructif pour la suite de l'enquête, et il ratait rarement une cérémonie. La vérité se travestissait difficilement dans l'intensité de l'émotion et le tricheur se décelait immédiatement. Ils passèrent discrètement l'assistance en revue. Ils n'étaient pas habitués à évoluer dans ce milieu et, justement, cet aspect les motivait davantage. Ils mirent en place quelques hommes en civil au cas où Rodrigue viendrait assister à la messe. Il ne se présenta ni à la cérémonie ni au cimetière. Laurent Bischoff fut victime d'un malaise et fut évacué par le SAMU. Sa maladie approchait du terme et il savait qu'il rejoindrait très prochainement son ami, rallongeant ainsi la liste des disparus prématurément. Il disait souvent qu'il avait bien joué, qu'il avait perdu, et qu'à ce jeu, il n'existait pas de gagnant. L'irruption des hommes en blanc, pendant la cérémonie, avait jeté un froid dans l'assistance. Ceux qui n'étaient pas informés cherchaient à connaître l'identité du malade et à passer en revue ses relations. Cet intermède permit aux deux gendarmes de mieux s'imprégner des personnalités présentes et du nombre impressionnant de célébrités dispersées autour d'eux. Le cérémonial était grandiose, et il fallait paraître. Le soir même, les chaînes de télévision diffuseraient des images de ses obsèques. Les professionnels de la compassion et de la tristesse sur commande parleraient et viendraient s'exposer en n'omettant pas de mettre en avant leurs derniers produits à vendre. Ils saisissaient chaque occasion, leur permettant de se montrer sans bourse déliée. Des tentures noires, ornées d'un I et d'un R blanc entrelacés, formaient un couloir d'une dizaine de mètres et recouvraient une partie des marches. Les pans de tissu flottaient au vent et les initiales d'Isabelle Rivet ondulaient comme la longue rombe de colombine suspendue au câble du campanile. Deux employés des pompes funèbres montaient la garde à l'entrée de cette allée drapée. Un plaisantin les surnomma les gardes suisses du Vatican. On aurait dit l'enterrement d'un prince sous le régime de la royauté, car ce décor rappelait les fastes d'époque révolue. Une caste utilisait ce décorum pour se reconnaître dans ces circonstances solennelles. Le vicaire Bricouane, porte-parole de l'épiscopat et grand spécialiste en mondanité et médias, célébra la messe. Il montra ses talents d'orateur et profita lui aussi de l'aubaine pour se hisser en haut de l'affiche. Il encensa la disparue et, à la fin de la cérémonie, Jeanne d'Arc se trouva reléguée au rang de faire-valoir. Une nouvelle sainte était née. Elle se nommait Isabelle Rivet. L'ecclésiastique brossa un portrait où toutes les qualités de la défunte furent mises en exergue. Aucune tache ne vint ternir l'icône. Personne ne fut dupe. Il s'agissait d'un spectacle. Avec une telle mise en scène, l'orateur se devait d'assurer une parfaite représentation et son homélie frisa la perfection. Les grandes orgues rythmèrent la cérémonie et quelques croyants épris de compassion reçurent la communion. Olivier Sadorlou prononça un éloge funèbre empreint d'une sincère émotion contenue. Il peignit un portrait touchant de sa défunte amie. La bénédiction du cercueil dura de longues minutes. La foule, disciplinée, se déploya sur toute l'allée centrale. Certains bénissaient en effectuant le signe de croix, tandis que d'autres se prosternaient simplement en marquant un temps d'arrêt avant de faire demi-tour. Le requiem, célébrant en grande pompe la fin de la cérémonie, égrena lentement ses notes solennelles. Chacun se prépara pour la sortie, conscient de son rôle à tenir. Il importait de paraître. Ils étaient venus pour ça. Le vicaire Bricouane accompagna les personnalités sur le parvis. Demain, le gratin du showbiz retournerait à ses occupations et ses paillettes. Et Isabelle reposerait à jamais. Sagol et Gilles furent déçus par cet enterrement. Ils pensaient trouver de la matière. Ils n'avaient assisté qu'à des mondanités. Le meurtrier présumé ne s'était pas déplacé et il ne restait guère que le cimetière du Père-Lachaise pour espérer découvrir quelques indices. Un discret filtrage avait été mis en place autour de la tombe et l'espoir persisterait jusqu'au dernier moment. Il n'écartait pas l'éventualité de la venue de Rodrigue et les deux collègues voulaient exploiter cette possibilité. Après, il conviendrait d'opérer autrement car le jeune homme pourrait apparaître plus tard et il s'agissait de ne pas rater son interpellation. Gilles soutenait Mordicus qu'il ne fallait pas concentrer toutes les recherches sur Paris. Il justifiait ses allégations en s'appuyant sur les récents événements savoyards. Rodrigue avait dû se réfugier quelque part, dans un périmètre situé autour de la demeure de l'animatrice radio. Dès le lendemain, les deux gendarmes reprirent la route vers les Alpes, espérant y découvrir au moins une piste, et au mieux Rodrigue. Il comptait inspecter les nombreuses résidences secondaires disséminées aux alentours du hameau et dans un rayon de 5 kilomètres.